Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Le Ridon, mais aussi Rosalie Suc, Hélène Lefrançois, Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Deuxième temps de notre série consacrée au nouvel élan de l'Union européenne. Après avoir évoqué hier le faux départ de la commission von der Leyen et avant d'évoquer demain les questions économiques, puis jeudi l'avenir de l'Union sans le Royaume-Uni, intéressons-nous à un sujet central pour la nouvelle commission, le climat.
Notre défi le plus urgent est de maintenir notre planète en bonne santé. C'est la plus grande responsabilité et chance à saisir de notre époque. Je veux que l'Europe devienne le premier continent neutre sur le plan climatique au monde d'ici 2050. Pour y arriver, nous devons prendre des mesures audacieuses ensemble et réduire les émissions de CO2 d'ici 2030 de 50 voire 55%. Je proposerai un Green Deal pour l'Europe dès les 100 premiers jours de mon mandat. Je présenterai la toute première loi européenne sur le climat qui fixera l'objectif de 2050.
Voilà, elle promet de présenter un Green Deal dans les 100 premiers jours de son mandat. Ursula von der Leyen, nouvelle présidente de la Commission européenne, ancienne ministre allemande des armées, a beau ne pas venir de l'écologie, elle a compris qu'elle se devait de mettre le climat et l'environnement au cœur de sa feuille de route. De fait, le nouveau Parlement européen a vu les Verts progresser aux dernières élections, tandis que parmi les autres formations politiques, les questions environnementales prennent une place de plus en plus importante. De quoi laisser envisager un réel tournant pour l'Europe qui, bien qu'elle a souvent été en pointe sur la question du climat, a souvent laissé celle-ci passer au second plan au moindre remous politique. Mais si les objectifs fixés sont ambitieux, les moyens d'y parvenir sont encore flous. Cet objectif de neutralité carbone en 2050, par exemple, réaffirmé par la future commission, a été rejeté cet été par la Pologne et rien ne laisse penser, dans l'état actuel des choses en tout cas, que Varsovie et les autres pays membres dépendants du charbon accepteront de changer leur fusil d'épaule. Alors quelle compensation l'Europe prévoit-elle pour ces pays que la transition énergétique risque de fragiliser plus que les autres? Au-delà du Green New Deal, comment intégrer les questions environnementales à tous les niveaux d'action de l'Union européenne et notamment à la nouvelle politique agricole commune? Il faudra en parler. Quel peut être aussi le poids réel du Parlement européen face aux résistances nationales, aux politiques de transition écologique? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité deux personnes. D'abord, Marta Torrechaux, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et enseignante à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais aussi directrice du réseau Climalex. À vos côtés, Guillaume Santini, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Enseignant-vous en politique environnementale à AgroParisTech. Vous avez notamment écrit Le climat qui cache la forêt, qui avait été publié aux éditions de l'Échiquier, rue de l'Échiquier, et qui va être réédité là dans quelques jours. D'abord, peut-être une première réaction l'un et l'autre sur cette future commission. Vous avez entendu à l'instant Ursula von der Leyen. Que vous inspire cette aspiration verte de la future commission? Est-ce que c'est seulement de l'affichage politique ou est-ce que vous voyez une réelle intention de prendre enfin le virage vers Marta Torrechaux?
Oui, alors bon, ça c'est une très bonne question. Je préfère voir les choses de manière positive et imaginer que effectivement ce sera le cas et que un green pathway et donc une sorte de traversée verte va s'initier, notamment du côté de la transition. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir effectivement la marge des manœuvres que Madame von der Leyen aura et de quelle manière elle pourra mettre en œuvre cette fameuse annonce et ce Green Deal.
C'est ce qu'on va évidemment essayer de comprendre ce matin. Guillaume Santini.
Ce qui est très frappant en réécoutant ce passage, c'est qu'elle parle de climat, puis de Green Deal, puis de climat. Donc, on a l'impression qu'elle considère que le seul problème environnemental qu'a réglé l'Europe, c'est le changement climatique, et que le Green Deal ne s'occupera que de changement climatique. Or, le Green Deal, c'est évidemment sur l'ensemble des questions d'environnement, pas uniquement sur le problème climatique. Et par ailleurs, ça supposerait que le changement climatique soit le problème principal de l'environnement en Europe, ce qui n'est pas du tout évident, puisque l'Europe est déjà un assez bon élève en matière de changement climatique, et un moins bon élève sur, par exemple, les questions de biodiversité ou de pollution de l'air.
Vous avez compris ce que c'était, vous, le Green Deal dont elle parle? Parce que c'est quand même une formule qu'on entend depuis des années. Ça fait 10 ans ou 15 ans qu'on entend parler de ça, de la part d'ailleurs des ONG ici en Europe, mais aussi du côté des États-Unis. Vous avez compris ce que c'était dans la bouche d'Ursula von der Leyen?
Je pense qu'il est un peu trop tôt pour essayer de comprendre ce que c'est, parce que ça va se concrétiser une fois que la commission sera complète, qu'elle sera légitimée. Il va y avoir un plan qui va être co-élaboré avec le Conseil européen, dont qui a un grand rôle dans cette affaire, et le Parlement européen aussi.
Sur les annonces, toujours Martha Terechaube, celle concernant la neutralité carbone d'ici 2050, toujours cette annonce de rehaussement des objectifs de réduction de gaz à effet de serre à moins 50, voire même moins 55% à l'horizon 2030 par rapport au niveau de 90. Là aussi, ça vous semble être un réel objectif qu'elle se fixe, ou c'est essentiellement de l'affichage?
Alors, cela veut dire qu'en réalité, elle va juste augmenter des 10% l'objectif qui existait déjà, qui était quand même un objectif des 40% et qui est contraignant.
Sachant qu'il y a déjà des pays qui ont dit qu'ils étaient contre, notamment la Pologne.
Alors ça va être un problème, hein, puisque dans la mise en œuvre d'une transition, qui est donc au cœur de ce Green Deal, si j'ai bien compris, transition veut dire aussi transformer à la fois les politiques, transformer aussi les modes de vie, responsabiliser tous les acteurs, que ce soit les entreprises ou que ce soit les consommateurs, et de la même manière tenir compte de la question sociale, c'est-à-dire la question de l'emploi et donc la question de la reconversion, qui est quelque chose qu'on se traîne néanmoins depuis les années quand même déjà 70-80. Et c'est vrai qu'il y a des pays en Europe qui sont encore très dépendants de l'énergie fossile et qui vont connaître beaucoup de problèmes de ce côté-là, et y compris du côté de l'emploi. Et il y a aussi des régions en France, d'ailleurs, qui connaissent ce genre de problèmes, des régions en Espagne, en Italie. Donc tout ça, en principe, devrait faire partie aussi de cette annonce de pacte vert des Green Deal.
Guillaume Saint-Denis, sur cette neutralité carbone, pardon, il y a déjà en juin dernier la Pologne qui a dit qu'elle était contre. Elle a posé un veto lors du sommet du Conseil de l'Europe, avec d'ailleurs le soutien d'un certain nombre de pays. La Hongrie était derrière, la République tchèque était derrière, l'Estonie était derrière. Est-ce que von der Leyen a des atouts en main pour faire plier ses réfractaires?
Moi, si vous voulez, j'ai un tout petit peu de mal à m'intéresser aux engagements à très long terme comme 2050. C'est un peu ce que faisait aussi Nicolas Hulot quand il était ministre de l'Environnement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les engagements que prend cette commission pendant la durée de son mandat. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans les 5 ans qui viennent. Alors, un engagement de neutralité carbone en 2050, c'est très bien. Sauf que on a aujourd'hui encore énormément de la quasi-totalité d'ailleurs des États membres de l'Union européenne qui continuent à avoir des subventions publiques aux énergies fossiles, et on a plusieurs nouvelles subventions publiques aux énergies fossiles qui ont été votées l'an dernier dans différents pays, et plusieurs projets de vote de loi de finances dans lesquels il y a de nouvelles subventions publiques aux énergies fossiles. Donc fixer un objectif de neutralité carbone à long terme et à court terme prendre des mesures qui sont non seulement totalement inverses à cet objectif, mais qui en plus engage l'argent du contribuable dans la voie dont on dit qu'il faut l'avoir quitté en 2050, est tout de même un peu contradictoire.
Est-ce qu'aujourd'hui, on a des outils qui permettent justement de contrôler ces fameuses subventions?
Oui, c'est pas facile à 100%, mais on sait, d'abord on les compte, on est capable de les identifier. D'ailleurs, la France a fait un effort de ce genre il y a quelques semaines, puisqu'elle a sorti une chose qui s'appelle le Green Budgeting, qui est à la demande de l'OCDE, qui est, l'idée c'est d'évaluer du point de vue environnemental le budget. Ça a été fait sur quelques ministères, ça sera fait l'an prochain sur la totalité des ministères. Donc c'est un effort de transparence, mais ensuite il ne faut pas s'arrêter là, il faut évidemment diminuer peu à peu ces subventions publiques, sachant qu'elles sont beaucoup moins importantes en Europe que dans les pays du Sud. Ce sont les pays du Sud qui subventionnent le plus les énergies fossiles. Mais on a, pour prendre un exemple très concret, nous avons encore dans des pays comme la Pologne, dont on parlait, mais aussi l'Allemagne ou aussi l'Espagne, des aides publiques aux mines de charbon. Or, ces aides publiques non seulement sont défavorables à l'environnement, mais sont contraires à la réglementation européenne sur les aides d'État. L'Europe n'arrive pas à les faire cesser.
Ben voilà peut-être justement un levier, oui. Martha Teres-Schaub. On pourrait faire plier ces pays en faisant appliquer les règles qui existent d'ores et déjà en matière de subventions dans le secteur du charbon, par exemple.
Oui, alors par rapport à ça, il faut quand même rester prudent parce que ça fait lien avec ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire le côté de la transition énergétique qui touche à la question de la reconversion industrielle et donc quoi faire de tous ces emplois qui sont dans le secteur encore du fossile et dans les mines, par exemple, et comment repenser, du coup, un nouvel emploi vert. Alors, si j'ai bien compris, Madame von der Leyen a annoncé cela aussi dans ce nouveau pacte vert, et elle dit qu'elle va créer autant d'emplois verts qu'il cessera d'y avoir dans les secteurs du fossile. Mais ça, ça va être quelque chose qui devra être finalement négocié entre Monsieur Timmermans et le commissaire qui va se charger de la question sociale et de la question de l'emploi au sein de cette nouvelle commission.
Et puis faut-il encore que les États membres concernés acceptent ?
Alors, les États membres, à partir du moment, alors ça c'est un point quand même important, Madame von der Leyen a dit qu'elle va porter ses Green Deal in law. Alors, in law, ça veut dire dans la loi, mais dans la loi en français, il faut pas le traduire littéralement, c'est pas parce qu'elle va faire une loi, elle peut faire plusieurs choses, du point de vue juridique elle peut le décliner en une directive, elle peut faire un règlement, ou elle, encore elle peut faire un plan, une planification ou une programmation. Donc les perspectives juridiques, je dirais, les outils qui seront à sa portée sont multiples. Du coup, l'obligation ensuite du côté des États, elle sera en proportion à l'obligatoriété de ce texte que Madame von der Leyen fera adopter. Si c'est une directive, il faudra le transposer. Si c'est un règlement, ça sera directement applicable, donc plus obligatoire. Mais si c'est juste un programme ou une planification, ça sera beaucoup moins obligatoire.
Dans le premier cas, quand c'est particulièrement contraignant, est-ce que réellement c'est contraignant ? Je veux dire par là, est-ce que quand l'Europe décide de règles et que, en théorie, les États membres doivent s'y soumettre, doivent le transformer dans la loi, est-ce qu'on le fait effectivement, systématiquement ?
Alors, dans le cas, par exemple, des directives, on le voit avec la France, avec la pollution de l'air, on vient d'être condamné par la Cour européenne des justices, et sur la base de la violation des objectifs et des moyens de mise en œuvre de l'objectif sur la pollution de l'air. Et par rapport à ça...
C'est une directive qui remonte à 2008.
Oui.
Et 2008, il y a plus de 10 ans.
Oui, mais la France, elle a transposé cette directive et pour autant, elle n'est pas au niveau dans les instruments de mise en œuvre, de contrôle des objectifs fixés par la directive. Ça veut dire que la directive, elle est obligatoire. Elle a été transposée en droit français et la France, elle se doit, en fait, d'obéir à ses objectifs et surtout, pas seulement sur la question des objectifs, mais aussi sur la question des moyens. C'est une obligation des moyens également. Donc, sur le climat, on pourrait imaginer, ou sur la transition, qu'il y aurait une vraie directive européenne qui serait obligatoirement transposée dans le droit des États et qui serait donc obligatoire, non seulement par rapport aux objectifs, mais aussi par rapport à une obligation des moyens.
Guillaume Saint-Denis, sur cette question du droit.
Moi, j'ai un point de vue assez différent. Je ne vois pas et je ne comprends pas comment la création d'emplois peut découler d'un plan européen. Si Mme von der Leyen dit qu'elle veut créer autant d'emplois dans la transition écologique qu'on en détruit dans l'industrie fossile, ça ne dépend pas d'elle. Ça ne dépend pas non plus des gouvernements européens, ce sont les entreprises qui créent des emplois. Donc il faut mettre en place les conditions économiques et fiscales pour que les entreprises puissent créer des emplois dans cette économie-là. Mmh. Et même si elles sont mises en place, ce qui est peu probable, ça ne veut pas dire que les entreprises seront obligées de créer autant d'emplois. Donc c'est un engagement qui, à mon avis, n'a pas de contenu.
On va parler de la fiscalité, mais...
Oui, non, mais c'était pas là, je parlais pas seulement de la fiscalité. Alors pour revenir sur l'affaire des directives, je crois qu'il faut bien séparer trois choses. D'abord, il y a la Commission européenne a plusieurs instruments. Elle a les directives qui lient quant au but, mais les États sont libres des moyens pour atteindre les buts fixés dans les directives. Vous avez les règlements qui, eux, sont au contraire contraignants dans tout ce qu'ils écrivent, qui sont beaucoup plus rares. Et puis, vous avez une chose dont on ne parle pas assez, qui, à mon avis, c'est une erreur, c'est ce qu'on peut appeler la soft law, c'est-à-dire le droit mou, qui sont tout ce qui est les recommandations, les livres blancs, les livres verts. Et souvent, la Commission procède comme ça, en publiant sur tel ou tel sujet, en mettant en consultation un draft, et puis en publiant ensuite un livre blanc, un livre vert, qui donne la tendance de vers quoi il faudrait aller, et qui, est souvent annonciateur d'une future stratégie ou d'une future directive.
Oui,
et ça, les États membres peuvent aller dans ce sens-là s'ils le souhaitent. Ils n'en ont pas l'obligation, mais ça montre la direction souhaitée par la Commission européenne.
Oui, mais dans le domaine environnemental, admettez que la soft law n'a pas beaucoup de poids. Si la Pologne, par exemple, utilise du charbon, c'est parce qu'elle n'a pas d'autre choix, ou en tout cas que les alternatives lui coûteraient très cher. Et donc, voilà.
Sur ce plan-là, je suis d'accord, mais dans des pays décentralisés, rien n'empêche un land en Allemagne ou une région en France de s'inspirer de cette soft law pour mettre en pratique dans sa région un certain nombre de choses recommandées par l'Union européenne.
Guillaume Saint-Denis, puis ensuite je vous repasse la parole, Martha Torres-Schaub. Sur la question des outils, on parle là par exemple de la Pologne. Il y a un outil que Ursula von der Leyen envisage de mettre en place pour accompagner précisément la transition de ces régions charbonnières de l'Union européenne. C'est un fonds de transition. Est-ce qu'on a un tout petit peu d'abord l'idée de ce qu'elle imagine être ce fonds, et est-ce que effectivement les moyens aussi qu'on mettrait derrière, et est-ce que ça peut permettre justement à ces pays qui aujourd'hui sont évidemment réfractaires pour des raisons qu'on sait, est-ce que ça peut permettre d'accompagner effectivement cette transition?
À mon avis, très peu ou très modérément, parce que les raisons pour lesquelles les pays en question souhaitent conserver les énergies qu'ils ont, ce ne sont pas seulement des raisons de coût ou des raisons de facilité, ce sont aussi des raisons d'indépendance nationale et des raisons de diminution de la dépendance géostratégique. Quand vous avez une énergie sur votre sol, la Pologne, qui est un pays assez nationaliste de culture, a envie d'exploiter ses propres ressources et d'être moins dépendant de l'extérieur. D'autant plus que, n'oubliez pas qu'ils ont... d'où viendrait leur énergie alternative? Elle viendrait de la Russie, avec qui la mésentente est séculaire. Voilà, donc je pense que c'est un peu... ce fonds va exister probablement parce que c'est la manière de l'Europe d'intervenir. Il va être efficace à la marge, mais ça ne sera pas l'instrument décisif, je le vois pas comme ça.
Martha Torres-Schaub, vous partagez cette opinion?
Je vais essayer à nouveau d'être optimiste.
Il en faut, vous avez raison.
Voilà. Donc, peut-être qu'on peut imaginer aussi qu'il y aura plus de soutien aux PME et plus de soutien aux acteurs économiques, aux acteurs privés en général, pour les inciter justement à aller dans le sens de sortir des énergies fossiles et tout en tenant compte effectivement de ce facteur important de la souveraineté nationale sur la question énergétique, d'essayer de les aider. Et dans ce sens, je pense que ce fonds, c'est probablement son objectif premier. Après, ce fonds, comment il sera alimenté et de quelle manière il tiendra compte aussi d'autres objectifs environnementaux, parce que la question climatique, effectivement, on l'a dit au départ, elle ne peut pas se cantonner à la question énergétique. Il faut aussi faire le lien avec d'autres questions environnementales. Et donc, est-ce que ce fonds, je pense que c'est une bonne question aussi, est-ce que ce fonds tiendra compte aussi de l'intégration d'autres questions environnementales dans la mise en œuvre des aides qu'il va pouvoir pourvoir. Donc voilà une question importante. Et aussi, il y aura quand même les taxes qui ont été annoncées par Madame von der Leyen, les taxes carbone qui seront mises à l'extérieur de nos frontières de l'Union européenne. Est-ce qu'elles seront combinées avec d'autres instruments économiques, d'autres fonds, etc. Ça, c'est une très bonne question aussi.
On va l'aborder dans quelques instants, mais pour en finir peut-être avec les gros outils qui ont été un peu annoncés, ou d'ailleurs l'évolution sur certains outils qui existent déjà. Guillaume Saint-Denis, la Banque européenne d'investissement Parlement, parce que Ursula von der Leyen a évoqué la mise en place d'une banque européenne pour le climat, mais qui en réalité serait tout simplement une transformation de la banque européenne d'investissement. Elle a prêté cette banque environ 65 milliards d'euros pour des projets liés à des énergies fossiles, renouvelables ces 5 dernières années. Elle a dit que ça augmenterait encore, que cette part de financement liée au climat sera encore augmentée. D'abord, première remarque, la transition verte de cette banque d'investissement, en fait, elle a déjà commencé en réalité. Jusqu'où elle peut accélérer les choses, Ursula von der Leyen? Est-ce qu'on pourrait avoir une banque européenne d'investissement qui ne finance que des projets décarbonés?
Alors, peut-être juste un mot sur les directives pour terminer sur avant. Il y a deux choses qu'il faut bien comprendre pour les auditeurs, je crois, c'est la transposition des directives dans le droit national, qui en général se fait de façon relativement correcte. Il y a bien sûr des exceptions, mais quelquefois avec retard. Bon. Alors, est-ce que le retard est important ou pas? Ça dépend de combien il est. Et puis ensuite, il y a l'application des directives. Une directive peut très bien transposée dans le droit national, mais ensuite mal appliquée. C'est ce qui s'est passé dans le cas de la pollution de l'air. Pour répondre à votre question sur la BEI, en effet, ça se sait peu, mais la BEI fait déjà beaucoup de choses sur l'environnement, pas seulement sur le climat, mais aussi, par exemple, la BEI vient de créer, il y a un an ou deux, un mécanisme de financement du capital naturel, qui est une des manières de lutter contre le changement climatique, en dopant un peu les puits à carbone, que sont les infrastructures naturelles, mais qui est aussi en faveur de la biodiversité. Donc cet axe-là, à mon avis, va être développé, parce qu'on a justement plusieurs livres blancs, livres verts, recommandations de l'Union européenne qui incitent à investir dans à ce que l'investissement privé se dirige dans le capital naturel, qui encore une fois a la capacité à la fois de freiner le changement climatique et de permettre une meilleure adaptation. Mais la BEI développe ça, et même si on met en place la taxe extérieure carbone, ce qui sera compliqué, ça n'empêche pas que les fiscalités nationales elles-mêmes peuvent être tout à fait contradictoires avec ça. Et là, on touche quand même, c'est le cas dans plein de pays, y compris la France, et puisque par exemple la France a augmenté récemment sa fiscalité sur la nature, y compris la nature protégée. Et là, on touche aux limites de ce que peut faire l'Union européenne, puisque comme on le sait, à part quelques très rares exceptions comme la TVA ou éventuellement la directive sur ce qu'on appelle les assises énergétiques, la fiscalité n'est pas du ressort de l'Europe, et quand elle l'est, ce sont des décisions qui en général doivent être prises à l'unanimité. Un très bon exemple est qu'il y a quelques années, il y a eu un projet de révision de la directive sur les assises. Les assises, c'est-à-dire c'est les taxes sur l'énergie. Alors, la directive européenne qui existe aujourd'hui est assez modeste. Elle dit simplement que les taux minima et les cas où on peut aller jusqu'au taux zéro. Bon, alors évidemment, les fourchettes sont très larges pour contenter les pays. Et donc, il y a eu un projet qui était, à mon avis, très intéressant de révision de cette directive pour, évidemment, relever les taux minima, éliminer un certain nombre de cas zéro et introduire une composante carbone dans cette taxation qui, pour l'instant, n'existe pas en tant que telle. Et il n'y a pas eu d'accord au Conseil européen sur cette directive. Donc, ce projet de directive est tombé et n'a pas eu lieu.
Alors, justement, sur cette question de la fiscalité, Maria Terechaud, parce qu'effectivement, dans ce Green New Deal a été évoqué la possibilité d'une taxe carbone aux frontières, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut réellement croire à tout cela? Alors, on se dit qu'a priori, le contexte est plutôt favorable. En tout cas, on est dans un contexte avec une guerre commerciale extrêmement forte. A priori, ça serait en plus une réponse à l'agressivité, la brutalité d'un certain nombre de pays en la matière. On pense évidemment aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que cette taxe carbone aux frontières peut être réellement mise en place? Qui va-t-elle toucher? Combien va-t-elle rapporter? Martha Terechaud.
Oui, alors je n'ai pas trop réfléchi à la question de savoir effectivement de quelle manière précise elle peut être mise en œuvre, mais on peut peut-être imaginer qu'il faudra tenir compte de l'effet peut-être négatif sur la compétitivité européenne sur le marché mondial. Et donc par rapport à ça, il y a aussi un commissaire qui sera chargé de cette question, et qui est d'ailleurs monsieur Borrell, d'origine espagnole, et qui est spécialiste des finances en fait mondiales, et qui devra, je pense, penser à la manière dont cette taxe carbone qui peut bénéficier à la lutte contre le changement climatique intramuros à l'intérieur de l'Union européenne, mais qui peut porter éventuellement préjudice à la compétitivité des industries européennes à l'extérieur. Et plus qu'aux États-Unis, moi je pense à la Chine, qui est quand même un acteur effectivement assez actif et peut-être même agressif sur le plan du commerce. Après, il y a aussi une autre carte peut-être à jouer intéressante à l'intérieur de cette nouvelle commission, qui est le commissariat qui s'occupe de négocier les traités économiques entre l'Union européenne et d'autres puissances et d'autres pays. Et peut-être que par rapport à ça aussi, il y aura probablement des compromis à trouver entre les effets éventuellement négatifs de la taxe carbone au niveau de la compétitivité et la manière dont le commerce Union européenne et autres puissances pourra se faire. Et il faut pas oublier aussi, je lance ça comme ça, je le dis, que à côté de la taxe carbone, il y a quand même le système d'échange des quotas, donc ce marché des permis d'émission des gaz à effet de serre qui existe déjà quand même depuis 2003-2004. Et par rapport à ça, l'annonce qui a été faite par Madame van der Leyen, c'est qu'elle va élargir les secteurs qui sont en fait affectés ou qui pourront participer, plutôt on va utiliser cette expression, dans ce marché.
Toute la question étant de savoir si on intègre ou non le secteur des transports.
Alors voilà, la question est le secteur des transports et aussi la construction.
On s'est prononcé sur ce point.
Elle a fait une annonce en disant qu'elle allait l'élargir en fait au secteur du transport et aussi de la construction. Et on sait quand même que la construction, elle est à côté de l'énergie, un des grands facteurs qui ne favorise pas, je dirais, la protection du climat. Voilà.
Guillaume Saint-Denis, vous êtes beaucoup intéressé à cette question de la fiscalité verte. Vous aviez d'ailleurs écrit un ouvrage plaidoyer pour l'écofiscalité. Comment est-ce que vous voyez tout ça? Commençons peut-être par la taxe carbone aux frontières. Frans Timmermans, qui va avoir la charge de piloter justement le Green New Deal, a dit qu'elle serait inévitable. Est-ce que effectivement, on va avoir là, très bientôt, dans les prochains mois, une taxe carbone aux frontières? Et qui va-t-elle viser?
Alors, il est certain qu'il y a en gros une majorité, à la fois dans l'opinion publique et dans les sphères décisionnaires, pour l'institution d'une telle taxe à terme. C'est pas nouveau, ça date d'il y a déjà une dizaine d'années. Il y a déjà eu des travaux, il y a déjà eu des tentatives pas très poussées, etc. Alors pourquoi? Parce que les gens qui sont favorables à ça sont très différents. Il y a évidemment les environnementalistes, mais il y a aussi les protectionnistes. Et on a des protectionnistes à la fois de droite et de gauche. Donc ils se rejoignent tout à fait sur ce sujet. Donc ça forme en effet une majorité, mais une majorité qui converge vers ce but pour des raisons différentes. Ce qui n'empêche pas que ça peut être voté, on l'a déjà vu. Bon, alors ça c'est l'aspect...
Sans compter pardon qu'aujourd'hui le monde est en train de glisser sa totalité vers une forme de protectionnisme. Voilà. Donc ça serait pas complètement...
Ça c'est l'aspect politique, qui est, je dirais peut-être c'est le plus simple. Mais après il y a l'aspect juridique d'abord. Est-ce qu'elle est faisable ou pas? Alors elle est faisable puisque les règles de l'OMC, quand on les regarde de près, permettent de le faire, bien que la voie juridique ne soit pas aussi simple que ça.
C'est-à-dire, parce que ça c'est important, il a dit aussi, Frans Timmermans, il faudra que ça s'inscrive effectivement dans le cadre de l'OMC. On peut le faire?
Oui, on peut. Moi, j'ai travaillé là-dessus à un moment. On peut le faire, bien que ce soit compliqué. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses. Si vous voulez, il faut faire attention à ce qu'on taxe, ce qu'on taxe pas, etc.
Dites-nous. Voilà. Ce qu'on peut taxer,
C'est très technique. Enfin, il y a deux paragraphes, notamment des textes de l'OMC, qui permettent de faire ça, mais ça doit être fait de façon très technique, si vous voulez.
Qu'est-ce qu'on peut taxer?
On peut taxer en théorie, si vous voulez. Quel est le problème essentiel? Prenons l'exemple qui est un exemple très intéressant des énergies renouvelables qu'on installe aujourd'hui en France. Oui. Ce matériel est fabriqué pour l'essentiel en Chine. Donc avec une électricité très carbonée, et puis ensuite ils voyagent par bateau en général, donc avec une énergie très carbonée. Résultat des courses, quand vous installez un panneau solaire en France, il a exact, si on prend en analyse de cycle de vie, c'est-à-dire fabrication, installation, destruction, fonctionnement, il a exactement un kilowattheure d'électricité produit par ce panneau solaire a exactement le même contenu carbone que le kilowattheure moyen du mix électrique français aujourd'hui. Donc ça veut dire que ça ne contribue absolument pas à décarboner le mix électrique français. En revanche, si vous l'installez en Espagne ou en Allemagne, ça contribue à décarboner puisqu'ils ont un mix électrique qui est beaucoup plus développé que le nôtre. Donc ça veut dire aussi que les intérêts des pays ne sont pas exactement les mêmes. On comprend dans ce contexte-là mieux la politique allemande en faveur des énergies renouvelables, qui est beaucoup plus utile en termes de climat que ne l'est la France, et probablement en France, la bonne politique serait plutôt de donner la priorité aux économies d'énergie. Donc il y aura aussi toutes ces affaires-là à prendre en compte. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on risque des représailles. On a un exemple très récent qui est 3-4 ans de mémoire, l'Europe s'était mis d'accord pour instituer une taxe sur les vols aériens qui décollaient d'Europe ou qui atterrissaient en Europe. Et il y a eu immédiatement des représailles de la Chine indiquant qu'elle allait, que ces compagnies aériennes qui évidemment prennent une part croissante du marché allaient boycotter les aéroports européens. Donc la Chine étant évidemment très visée par une taxe carbone et étant en phase de ralentissement économique et commercial en ce moment, elle va évidemment mal prendre et elle va combattre cette taxe carbone. Dans quelle mesure aura-t-elle les moyens de lui mettre des bâtons dans les roues ou de l'empêcher complètement, ça sera en tout cas très difficile.
Et les pays, donc, il y a la Chine, mais il y a, j'imagine, d'autres
oui,
pays.
Oui, mais parce que tous les pays du Sud vont être contre, puisqu'ils ont tous un contenu très carboné. Ils ont tous un contenu d'électricité qui est beaucoup plus carboné que la France. Donc l'Inde va être contre aussi. Or, l'Inde est un partenaire commercial important pour la France. Donc ça ne va pas être si simple.
Martha Torres-Schaub.
Alors, sur ces questions de la compatibilité entre les règles de libre commerce imposées par l'OMC et l'éventuelle taxe carbone, il faut aussi oublier que, il faut pas oublier qu'à l'OMC, il y a aussi des clauses, en fait, d'exception qui permettent, si c'est dans un objectif de protection de l'environnement et de la santé, de passer outre cette question des règles de libre commerce et de libre circulation. Donc, à ce moment-là, peut-être qu'on pourrait faire jouer la carte, non pas tellement uniquement climatique, énergétique, mais la carte environnementale plus large, qui permettrait que l'Europe puisse, ou pays au cas par cas, à chaque fois qu'ils essayent de mettre en œuvre des mesures un peu contraignantes à la liberté de commerce, de dire oui, mais attention, on se sert de cette clause qui nous permet cela, puisque c'est au nom de la protection de l'environnement. Donc je pense que ça, c'est une arme juridique qui a été utilisée il y a longtemps avec la pêche au thon, avec la protection des baleines, notamment contre le Japon et sa politique un peu agressive des pêches. Et on a réussi, et avec le Canada aussi, on l'a essayé. Peut-être qu'on pourrait maintenant jouer à nouveau cette carte et aller dans ce sens-là, voilà.
Kim Saint-Denis, vous.
Oui, tout à fait. Il y a eu le cas des crevettes là aux États-Unis est connu, mais à chaque fois c'est compliqué parce qu'il faut montrer que ça a vraiment un objectif environnemental et que c'est pas du protectionnisme déguisé comme souvent beaucoup d'États essayent de le faire évidemment.
Donc c'est possible, mais ça prend du temps,
techniquement
c'est
difficile.
Compliqué, c'est pour des.
Ça va pas se faire en 6 mois.
Oui. Ouais. L'Europe se met au vert, c'est le titre de notre émission aujourd'hui dans cette série consacrée à l'Union européenne, un nouvel élan. Alors je sais pas si demain effectivement la Commission européenne va pouvoir mettre un coup d'accélérateur sur les politiques environnementales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les urnes, le coup d'accélérateur, il est là.
Nous sommes ce soir la troisième force politique en France. Probablement avec des scores identiques, voire parfois supérieurs, en Allemagne, en Belgique et ailleurs. C'est donc bien une vague verte européenne dont nous sommes les acteurs ce soir. Les Françaises et les Français nous ont envoyé un signal très clair. Ils veulent que l'écologie aussi soit au cœur de notre vie, au cœur du jeu politique. Et ce message, comme je l'ai dit, a été lancé dans toute l'Europe.
Voilà, Yannick Jadot qui exulte au soir des résultats des élections européennes en mai dernier. Guillaume Saint-Denis, c'est vrai que c'est l'une des leçons de ces élections européennes, la montée en puissance de ces forces écologistes, ces 74 eurodéputés aujourd'hui, c'est plus que lors des précédentes élections. jusqu'où est-ce que ces nouveaux eurodéputés verts vont pouvoir mettre la pression sur la future commission?
Alors, d'abord sur le score des écologistes, oui, il a progressé. En même temps, il ne faut pas oublier que premièrement, il y a eu, par exemple en France, 50% d'abstention, si ma mémoire est bonne, et que, d'une manière générale, le scrutin européen est favorable aux écologistes. C'est un scrutin où ils font de meilleurs résultats qu'aux scrutins nationaux, de même d'ailleurs que les municipales qui auront lieu dans quelques mois. Voilà. En revanche, on a une progression un peu partout en Europe, et effectivement, on a un nombre de députés qui progressent, et donc, comme on a plus le duopole qu'on avait entre les conservateurs et les sociaux-démocrates, les écologistes peuvent faire partie d'une majorité et donc ils auront un rôle plus important à jouer. Mais on a aussi un certain nombre de députés à sensibilité. C'est pas la première fois. Il y a déjà eu ça avant, à sensibilité environnementale dans d'autres groupes et dans d'autres partis qui vont certainement influer là-dedans. On oublie, je crois, en France, parce que finalement les Français connaissent assez mal le mode de fonctionnement de l'Union européenne, que le Parlement européen a un rôle important et un rôle de plus en plus important. Et donc, il y a des négociations entre la Commission et le Parlement européen sur les différents textes à adopter, à faire progresser. Et le plus souvent, le Parlement européen a des positions qui sont davantage progressistes sur les questions environnementales que la Commission européenne.
Martha Thorez-Schaub, comment cette percée dans les urnes va se transformer politiquement? Comment vous voyez les choses?
Je suis sur la même longueur d'onde que Monsieur Sentiment qui vient de parler, mais je ne suis pas certaine que ça puisse se transformer très très rapidement ces nouveaux parlements en nouvelles lois. Je pense qu'il y aura des propositions, mais après il faut quand même les voter. Puis il y a toujours des allées-venues. Néanmoins, avec la Commission, la manière de faire le droit au sein de l'Union européenne n'est pas si simple, effectivement, comme vous l'avez dit, que au niveau national. Et c'est, en partie, c'est quand même négocié. Il y a les lobbies, on peut pas les oublier. Alors c'est vrai que Madame von der Leyen a annoncé, en même temps que son pacte vert, qu'elle donnera plus de pouvoir, enfin que le Parlement aura plus de pouvoir, mais en même temps, c'est pas elle forcément, c'est pas elle forcément de décréter ça.
Elle a parlé d'un droit d'initiative du Parlement, d'un nouveau droit d'initiative du Parlement, mais on ne sait pas exactement.
Parlement a toujours eu un droit d'initiative. La question n'est pas là. La question est-ce que ces initiatives, après, elles se concrétisent,
se transformeront
en quelque chose des viables. Je sais, j'ai bien compris qu'il y a beaucoup militants écologiques qui sont peut-être pas très enthousiastes avec l'annonce de Madame von der Leyen, notamment parce qu'ils considèrent que du coup, sur Monsieur Timmermans, il y aura une grande concentration et une grande attente finalement d'objectifs. On peut leur dire aussi, peut-être pour les rassurer, je dirais, c'est bon, d'abord, il faut garder quand même l'espoir, c'est une belle annonce qui a été faite, et deux, peut-être qu'il faut aussi imaginer que ça ne va pas tout retomber sur lui, qu'il y aura justement une sorte de collaboration entre les différents commissariats.
C'est vrai qu'on peut s'interroger, Guillaume Saint-Denis, sur le choix de Frans Timmermans, qui n'est pas un écologiste de la première heure. C'est une bonne idée, un bon choix que de l'avoir pris pour piloter la politique environnementale de l'Europe?
D'abord, on n'est pas encore complètement sûr de tous les choix, puisque on attend que la Commission soit...
Oui, a priori, celui-là, il pose pas de problème.
Ceux
qui posent problème, on le sait.
Mais il peut y avoir des renégociations de portefeuille en fonction de ceci ou de cela. Enfin bon, je pense, si vous voulez, que moi, je serais moins négatif sur Madame von der Leyen que certains, parce que, d'abord, je crois que c'est une politique, et donc une politique sans les rapports de force. Ensuite, elle est très proche, comme vous savez, d'Angela Merkel, et je vous rappelle qu'Angela Merkel a commencé sa carrière comme ministre de l'Environnement, et que c'est une chimiste de profession. Donc, elle a été sur ces sujets, clairement, elle a pris la décision sur le nucléaire, alors il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, enfin, elle l'a prise, et elle a été assez précoce dans ses alertes sur le changement climatique, et puis d'une manière générale, l'opinion publique est beaucoup plus avancée sur les questions environnementales en Allemagne qu'en France, par exemple. Et donc ça, Madame von der Leyen, qui n'est pas âgée, et qui compte probablement continuer sa carrière politique ensuite en Allemagne, va en tenir compte, ne serait-ce que pour elle-même.
Un tout petit mot peut-être sur l'opinion avant d'accueillir un nouvel invité pour parler justement des mobilisations citoyennes, mais sur la question de la transparence, parce qu'on voit bien quand on interroge les opinions en Europe qu'il y a un problème de transparence s'agissant des questions environnementales. Très clairement, les citoyens européens disent d'abord, un, on veut participer davantage sur les questions qui sont liées à l'environnement, et deux, on a le sentiment que les choses ne sont pas suffisamment transparentes. Est-ce que là, on peut apporter de la nouveauté avec cette nouvelle commission? Je vous fais réagir l'un et l'autre sur cette question. Guillaume Saint-Denis.
Oui, alors là, je pense que peut-être les citoyens sont un peu injustes parce que...
C'est ce qu'ils ressentent.
La Commission européenne a fait beaucoup dans ce sens. Et notamment, je voudrais rappeler qu'il existe une convention qui s'appelle la Convention d'Aarhus, qui n'est pas d'origine Commission européenne, mais que l'Union européenne a signée et ratifiée en tant que telle, ainsi que tous les États membres, et qui est une convention qui développe beaucoup le droit à l'information en matière d'environnement, l'accès à la justice en matière d'environnement, et le droit à participer aux décisions en matière d'environnement. Et ces outils existent, ils sont juridiquement efficaces, on peut aller en justice avec ça, et on peut gagner avec ça. Et
je pense Donc des bons outils trop peu connus.
Trop peu connus, trop peu utilisés par les citoyens et par les ONG.
Martha Torrechaud.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Les outils de ce qu'on appelle la démocratie environnementale et qui ont été introduits par la Convention d'Aarhus, que l'Union européenne a ratifié, et ensuite beaucoup d'autres États membres en tant qu'État individuel, et là, le mérite d'être là. Après, la question de l'information environnementale, elle a été bien développée, et je pense que la Commission, effectivement, joue le jeu. La question de la participation, elle est peut-être un peu plus complexe, dans ce sens qu'il n'y a pas une démocratie directe au sein de l'Union européenne, donc on peut se poser la question de quel est le contenu exact de la participation à des décisions environnementales. Donc voilà. Et par ailleurs, la question de l'accès à la justice, là, j'essaierai peut-être un peu aussi mitigée, puisqu'il n'y a pas des directives qui développent véritablement la question de l'accès à la justice. Et deux, sur l'accès à la justice en matière environnementale devant le tribunal de justice de l'Union européenne et la Cour de justice de l'Union européenne, il y a toujours la question de l'intérêt à agir, c'est-à-dire qui est légitimé à porter véritablement une action juridique, un recours devant le tribunal et devant la cour. Donc, c'est des choses à améliorer.
Raison pour laquelle peut-être il y a autant de contentieux climatiques ces derniers temps. Il y a une multiplication très importante de contentieux climatiques ces dernières années. Ça a d'ailleurs été un sujet très récemment qu'on a traité à ce micro. On parle des citoyens alors que les gouvernements peinent, c'est vrai, à mettre en place des solutions pour répondre à ce problème du changement climatique. Il y a un mouvement qui s'est structuré du côté du Royaume-Uni puis qui s'est diffusé ensuite un peu partout à travers le monde. C'est Extinction Rebellion, on va en parler dans un instant.
On en a marre des paroles, on en a marre des discours creux, voilà, et il faut agir, il faut trouver une solution, parce qu'en 2050, ce sera trop tard. Voilà.
Nous nous excusons sincèrement auprès de ceux qui sont gênés par nos actions. Nous ne voulons pas être ici. Nous ne voulons pas perturber la vie des gens. Ce qu'on veut, c'est que le gouvernement agisse.
Voilà, alors en quoi ce mouvement se distingue-t-il des mobilisations climatiques précédentes? Comment il s'articule ou non avec les politiques climatiques à l'échelle du gouvernement? Est-ce qu'elles sont efficaces, ces mobilisations? On va retrouver un nouvel invité. Graham Hayes, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur à l'université d'Aston. Vous êtes un spécialiste de la réponse collective et citoyenne au changement climatique. Vous étiez dès le début de ce mouvement, puisque vous étiez présent lors du premier meeting d'Extinction Rebellion à Londres en septembre 2018, où seulement une trentaine de personnes s'étaient réunies. On était loin des milliers de personnes qui aujourd'hui se mobilisent. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler pour commencer, Graham Hayes, ce premier moment, cette première réunion? Les conditions d'émergence de ce mouvement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on entend dans cette toute première réunion?
Bah écoutez, en fait, cela ressemblait beaucoup, enfin, à des réunions de militants et écologistes habituels. En fait, j'ai quitté le meeting dans l'après-midi et je me suis dit en fait que cela n'allait jamais aboutir à rien, en fait, ou de toute façon que ça n'allait pas changer la donne, qu'il y avait des militants un peu expérimentés qui essayent de faire quelque chose de nouveau. nouveau, mais il n'était pas clair que comment ils allaient arriver à faire cela. Et puis 6 semaines plus tard, il y a 6000 personnes dans les rues de Londres pour bloquer les ponts.
Donc quelque part, vous êtes trompé. Votre première analyse était fausse.
Ouais, ouais. Absolument, absolument. En fait, je pense que ce qui a comment ils ont réussi, ils ont essayé de contourner les réseaux militants existants. C'est qu'ils ont fait appel directement aux classes moyennes, à ceux qui ne sont pas forcément des militants eux-mêmes, qui ne sont pas très politisés et qui éprouvent un certain désespoir face à ce qu'on peut dire est une crise écologique.
Et donc ça veut dire que dès le départ, il y avait alors peut-être pas un message différent, mais en tout cas une stratégie différente de celle qu'on peut voir dans les ONG, les associations traditionnelles, j'allais dire, et les partis écologistes européens. Il y avait quelque chose de nouveau.
Tout à fait. Ouais. Bah, ils ont cherché, ils l'ont dit dès le début, qu'ils voulaient se démarquer des ONG, et ils voulaient se démarquer des réseaux militants existants et également, c'est-à-dire des réseaux d'action directe, et pratiquer une autre forme de désobéissance de masse. Et c'est ça qui est important, et c'est qu'ils ont imaginé une façon de participer. Il y a un désir, un véritable désir, vous avez parlé tout à l'heure de l'Union européenne, mais il y a un véritable désir de participer, de se faire voir, d'être dans la rue, et puis de rendre la politique climatique physique et matérielle et quotidienne. Et en fait, nous avons assisté également, enfin avec d'autres chercheurs, au procès de ceux qui se sont fait arrêter en avril 2019, et ces procès vont continuer enfin jusqu'à la fin probablement de l'an prochain en fait, et on remarque qu'il y a beaucoup de ceux qui se sont fait arrêter qui ont fait des changements dans leur vie personnelle et qui sont arrivés à un moment où ils disent comment est-ce que je peux agir? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et c'est comme ils sont à une impasse. Et donc, Extinction Rebellion leur donne une voix, une possibilité d'agir, d'être présent dans ce débat.
Mais donc c'est intéressant parce qu'en fait il y a un appel global à la transformation du monde, mais qui s'accompagne au fond d'une transformation du quotidien de ces gens qui s'engagent. Une question, Graham Hayes, sur l'extension et puis la capacité d'adaptation aussi de ce mouvement, parce que il est parti de Londres, sauf qu'aujourd'hui on le voit un peu partout, on le voit en France, on le voit du côté des États-Unis. Comment expliquer cette formidable capacité à s'adapter au contexte? Et d'ailleurs, s'adapte-t-il vraiment, ou est-ce que finalement les principes généraux restent les mêmes partout?
Ben, les principes généraux restent les mêmes, mais les principes généraux, et là c'est important. C'est-à-dire que, par exemple, si on regarde la différence entre le mouvement en Angleterre et le mouvement même en Écosse, le mouvement en Irlande et surtout le mouvement aux États-Unis, ben, on commence par les 3 revendications. C'est dire la vérité, créer des assemblées citoyennes et pousser pour avoir les zéro émissions nettes en 2025. Mais aux États-Unis, les militants d'Extinction Rebellion ont rajouté une 4e revendication qui est la justice climatique globale. Et cela, vous avez dit, est-ce que le mouvement se transforme? Bah, en Angleterre, le mouvement s'est fait vivement critiquer pour plusieurs raisons, mais en particulier parce que cette 4e revendication, la justice climatique, ne fait pas partie de leur revendication originelle. Et en fait, les réseaux militants poussent, parlent même en Écosse de la décolonisation d'Extinction Rebellion. Et c'est vrai qu'en voulant contourner ces réseaux militants existants et en cherchant à cibler ceux qui sont peut-être pas vraiment dépolitisés, il y a un problème d'exclusion des minorités ethniques, et surtout dans la stratégie de l'arrestation. Et ce rapport qu'ils ont cherché à nouer avec la police, où on voit la police comme des citoyens comme tous les autres, pose beaucoup de problèmes, surtout pour les minorités visibles.
Mmh. Comment vous voyez l'avenir de ces mouvements, Graham Hayes? Est-ce que vous pensez qu'ils ont vocation à se transformer, à s'institutionnaliser? Ou est-ce que au fond, il y a un terreau, j'allais dire, quasiment un fond anarchiste qui est trop fort pour envisager toute forme d'institutionnalisation? Comment vous voyez les choses, vous, depuis le terrain?
Ce ne sont pas des anarchistes. Normalement, en Angleterre, s'il y a des actions directes, des actions de désobéissance, il y a une forte mobilisation anarchiste là-dedans. Extinction Rebellion, pas vraiment. Et justement, il manque une vision politique du futur. Si c'est une désobéissance, c'est une désobéissance pour faire intervenir les institutions et les partis politiques. Et la création des assemblées citoyennes locales, c'est aussi un moyen de donner cette participation au grand public, mais en même temps, ce qui n'est pas dit, c'est quel doit être en fait l'objectif final en termes de formation politique. Et tout cela reste un peu ouvert et ça reste à définir, puisqu'en fait, si on va déclarer des urgences climatiques, il est très facile de déclarer une urgence. Ce qui est difficile, c'est d'agir, c'est de développer un plan pour justement transformer, par exemple, l'organisation de la ville. Et tout cela reste aux mains de ces assemblées ou des conseils locaux, des conseils municipaux.
Et c'est encore plus compliqué quand il s'agit de mettre une politique en place à l'échelle de l'ensemble de l'Union européenne, ce qu'on évoque depuis le début de cette émission avec nos deux invités, que j'aimerais faire peut-être réagir en guise de conclusion. On arrive presque au terme de cette émission. Martha Torrechov, vous nous avez dit tout à l'heure en début d'émission que vous étiez encore optimiste. Est-ce que vous êtes optimiste? Parce que précisément, on voit là sur le terrain une mobilisation qu'on avait peut-être jamais vue et que vous sentez que ça va forcer finalement nos politiques à prendre les bonnes décisions.
Alors, ces mobilisations, elles ont commencé il y a quand même plus longtemps que ça. C'est pas Extinction Rebellion qui a commencé tout ça. Le mouvement de la justice climatique existe quand même depuis 2010 au niveau global. Et après, au niveau des ONG qui font d'autres types de mobilisations, des grèves, des marches pour le climat, des scientifiques impliqués aussi dans la démarche et qui accompagnent. Et puis, par ailleurs aussi, évidemment, des actions en justice, on l'a vu aux Pays-Bas avec l'arrêt Uganda, etc. Donc c'est pas complètement nouveau.
C'est évidemment pas complètement nouveau, bien sûr, on le sait bien, Guillaume Saint-Denis, c'est pas complètement nouveau, mais là c'est très fort, on le sent. Vous pensez que ça peut...
Oui, moi je pense qu'il y a deux choses intéressantes. C'est d'abord la rapidité de développement du mouvement et son côté international, et puis aussi le fait que les gens essayent de changer des choses dans leur vie quotidienne. En revanche, je m'interroge un peu sur les débouchés de ce mouvement, parce que je vois pas bien ce qu'il propose concrètement. Donc on a l'impression que les gens disent ce qui se fait n'est pas assez, les gouvernements, débrouillez-vous pour faire ce qu'il faut. Mais ils sous-estiment à mon avis la complexité, la technicité à la fois juridique et politique et économique des questions à résoudre. Et donc est-ce que des assemblées citoyennes vont être capables, et les problèmes sont devenus tellement compliqués et tellement imbriqués les uns entre autres, de proposer des solutions nouvelles et pratiques et concrètes? J'en suis pas convaincu.
Merci beaucoup à Graham Hayes qui était avec nous par téléphone. Je rappellerai qu'il est co-auteur de La désobéissance civile qui était paru aux presses de Sciences Po. Un grand merci à nos deux invités ici en plateau, Martha Torrechov. Je rappellerai notamment que vous êtes directrice du réseau Climalex. Vous concernant Guillaume Saint-Denis, Le climat qui cache la forêt, qui va être réédité là dans les tout prochains jours. Mais plaidoyer aussi pour l'écofiscalité puisqu'on en avait parlé, mais on mettra évidemment toutes ces références sur la page de Culture Monde. Vous pouvez évidemment réécouter l'émission, mais aussi la podcaster autant que vous le souhaitez. 11h53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
C'est quoi l'Amérique blanche? Voilà le titre d'un article publié ce mois-ci dans la revue Foreign Affairs par la fameuse historienne Nell Irvin Painter.
Oui, rappelons qu'elle est l'auteur de la fameuse Histoire des Blancs, récemment publiée en français. Sous-titre de son article, La politique identitaire de la majorité. tous les observateurs ont constaté que Donald Trump avait démarré sa campagne électorale en vue des présidentielles de l'année prochaine par des discours de meeting à teneur ouvertement ou subrepticement raciste. En fait, constatent les observateurs, Trump va mobiliser son électorat de 2016 et tenter de l'élargir en jouant à fond sur la peur des Blancs face à la perspective démographique inéluctable de perdre la majorité aux États-Unis. L'élection de Trump en 2016 a fait basculer le pays dans une nouvelle dimension, écrit donc Nell Irvin Painter. Jusqu'alors, la race concernait les autres, les minorités ethniques. Les Blancs, eux, ne considéraient pas leur identité sous cet angle. Mais voilà que soudain, suscité par le grand sorcier Trump, est apparu un « white people », un peuple blanc, comme il existait déjà des « black people ». Dorénavant, on peut donc voter en Amérique en tant que blanc. Et comme l'explique cette historienne noire, le slogan trumpien « Make America Great Again » devrait s'entendre comme « Make America White Again ». Dans la période qui suivit cette présidentielle, rappelle cette historienne, les commentateurs ont attribué la victoire de Trump au désarroi socio-économique de l'Amérique profonde, celle des laissés pour compte de la mondialisation. Et en effet, les républicains représentent à présent à la Chambre 58% des districts ayant un revenu par habitant inférieur à la moyenne fédérale. Mais plus récemment, une autre piste a été explorée. Les motivations des électeurs de Trump apparaissent nettement moins socio-économiques que culturelles et identitaires. Ils éprouvent du ressentiment face à ce qu'ils perçoivent comme la perte de leur position dominante en tant que blancs. Et Painter passe en revue trois livres de publications récentes consacrés à ce qui est devenu la question blanche. Il s'agit de White Shift de l'universitaire britannique Eric Kaufman, The White Identity Politics de Ashley Jardina, une très jeune enseignante de sciences politiques à l'université de Duke, et de Dying of Whiteness, How the Politics of Racial Resentment is Killing America's Heartland de Jonathan Metzl, qui est un professeur de psychiatrie et de sociologie à l'université Vanderbilt dans le Tennessee.
Et alors, Brice, Eric Kaufman, que vous venez de citer en premier, a donné cette année une longue interview au Point dans laquelle il s'explique sur ses idées.
Les angoisses liées à l'identité me semblent bien plus importantes que l'idée d'être laissé pour compte d'un point de vue économique. Sinon, pourquoi les populistes d'extrême droite se portent-ils mieux que les populistes d'extrême gauche? Et pourquoi la crise migratoire dope-t-elle les scores de la droite populiste alors que la crise économique n'a pas eu un grand effet politique? Regardez les études d'opinion. Les gens pauvres ou qui ont perdu leur emploi n'ont pas été beaucoup plus enclins à voter pour le Brexit ou pour Trump, alors que c'est le cas de ceux qui considèrent l'immigration comme la préoccupation numéro un. L'immigration rappelle aux gens la fragilité de leur identité, ce qui alimente le sentiment d'insécurité culturelle et de déclin, lit-on dans cette interview. C'est la raison pour laquelle le clivage droite-gauche qui reposait sur la perception qu'avaient les électeurs de leur place respective dans la hiérarchie sociale a été remplacé par une nouvelle opposition entre, je cite encore Kaufman, « ceux qui croient en l'idée de diversité et de changement » et ceux qui croient plutôt en l'homogénéité ethnique et moins au changement. Ashley Jardina, que je citais également, propose un système de classement des électeurs américains sur une échelle de 5 en fonction du degré selon lequel ils s'identifient comme blancs. Depuis « extrêmement important pour mon identité » à « pas important du tout ». Et elle corrèle les résultats obtenus à leur réaction face à un certain nombre de sujets d'actualité politique. Résultat, plus l'électeur en question s'identifie comme blanc, plus il est susceptible d'être hostile à l'immigration, à l'affirmative action, mais favorable à la sécurité sociale et au système de soins gratuits pour les personnes âgées aux États-Unis, Medicare. Beaucoup des blancs considérant leur couleur de peau comme très importante se disent par ailleurs mis en minorité, voire désavantagés. C'est sur ces sentiments de frustration de blancs qui se sentent déclassés que compte évidemment Donald Trump pour être réélu. Mais comme le dit dans une interview au Figaro le rédacteur en chef de la revue The American Interest, Jeff Gedmin, Trump est certainement plus le symptôme de la crise actuelle que sa cause. Il a bouleversé la donne politique aux États-Unis, car je cite encore Gedmin, les racines du Trumpisme ne disparaîtront pas facilement, même si Trump est battu. En effet, on peut ajouter que le président élu a si profondément transformé l'électorat républicain que ce parti ne redeviendra pas de sitôt ce qu'il était avant Trump, à savoir le parti du business, grand et petit, favorable à l'immigration et au libre-échange.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.